having a good time.
Bienvenue dans l'Open Mic.
Next up on the mic.
Open Mic, Open Mic.
L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct.
Open Mic, Open Mic.
Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Salut, bon mardi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, elle, c'est Madame Audrey Pinchot avec ses nouveaux cheveux de feu.
T'as même pas remarqué, menteur.
Non, j'avais pas remarqué. Jusqu'à temps que tu m'en parles, j'en suis vraiment désolé. Puis j'aimerais revenir sur ce fameux sujet de tes cheveux dans les prochaines secondes. Mais juste avant, quelle belle journée on a. On est gâtés, encore une fois. Plein soleil sur Québec, un genre de 6 degrés comme température ressentie actuellement. Maximum de 9 pour ce qui est d'aujourd'hui, donc ça risque de se réchauffer un petit peu ce soir, partiellement nuageux. Demain, des nuages avec un maximum de 8 degrés. Jeudi, c'est nuageux avec des probabilités d'averses, des averses, maximum de plus 7 degrés. En soirée, de la pluie intermittente, minimum de plus 5. Vendredi, de la pluie intermittente, ce sera venteux avec un maximum de plus 5 degrés.
Fait pas d'averses de neige.
Non, pas encore. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. C'est par texto si ça vous tente de participer à l'émission ou encore vous constatez quoi que ce soit sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. Madame Pinchot!
Hey!
Combien? C'est ma question. Pour, parce que je me... OK, les filles qui nous écrivent, là, est-ce que ça vous dérange tant que ça que les gars se rendent pas compte de votre nouvelle coiffure ou de votre nouvelle couleur ou de votre nouveau style ou de vos nouveaux vêtements? Parce que je trouve que vous vous faites arnaquer constamment. Peu importe, quand vous achetez du linge, on dirait que c'est tout le temps trop cher pour rien. Vous allez chez l'esthéticienne, t'as l'impression que t'es en train de te faire faire une manucure par une milliardaire là, tellement que ça coûte cher.
Ah, te faire épiler, ça coûte un bras puis une jambe. Là. Peu importe le niveau de pilosité de ton corps. Là. C'est épouvantable. Je suis rendu que j'achète des affaires à la maison puis je me fais souffrir.
Moi, là, je prends du Irish Spring, puis ça me coûte à peu près 10$ par deux semaines.
Mais vous autres, vous êtes chanceux. Allez, chaque Kafer, ça vous coûte 20$. Il n'y a rien qui est compliqué.
Ouais.
Non, il n'y a rien qui est compliqué. Nous autres, c'est tout l'inverse.
Il n'y a pas de pilule.
Non, t'as bien ça, c'est un autre.
Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle, le car wash, là?
Ah, c'est appelé ça un car wash. Ouais. OK, non,
les règles, on n'a pas ça non plus.
Non, mais finalement, vous êtes bien.
Ouais, malgré qu'il faut vous endurer, ça, c'est une autre histoire. Mais
je pense que vous êtes chanceux parce que vous n'avez pas tant enduré, pour être très honnête avec toi, par moi pas. mais hier, c'était une soirée réparation capillaire parce que. Puis ça, c'est fou. T'sais, je vais répondre à ta question. Est-ce que ça dérange?
Réparation ouais. Capillaire.
Est-ce que ça dérange quand vous remarquez pas nos cheveux, les changements? Je pense pas que ça dérange. Je pense que c'est plus... Ça fait plaisir de se le faire dire.
Ouais.
Hey, t'as changé tes cheveux, c'est donc bien beau. T'sais, c'est sûr que, bon, moi, aujourd'hui, ils sont attachés, c'est dur à voir, là. Mais Yann, quand je suis passée de blonde à brune presque noire, il a pas réalisé que j'avais changé de tête de cheveux.
Moi, c'est
intense comme ça, là.
C'est ta personnalité, Audrey, ben que je remarque tout le temps. Ta merveilleuse personnalité, mais ton changement de couleur de cheveux, je suis désolé, je l'ai pas remarqué.
Parce que ça change une face, là.
Non.
Ben oui.
Ben peut-être. Mais c'était pareil avec mes anciennes blondes.
Ouais, c'est un problème.
Ma nouvelle blonde aussi, je remarque pas ces affaires-là. Puis je trouve ça dommage parce qu'à partir du moment où vous me donnez le montant que ça vous a coûté chez la coiffeuse, je trouve ça hallucinant.
C'est hallucinant, mais il y a des raisons, par exemple. Pour venir à la défense d'eux, il y a des raisons. Les produits qui sont utilisés, le temps. Hey, t'es pas là, genre 20 minutes, comme vous autres qui vous faites couper les cheveux.
Les
là.
Produits, ils vendent ça ben trop cher aux coiffeuses. Vous vous faites arnaquer
t'es
constamment.
T'es là 4 à 5 heures, Yannick.
Ouais.
Puis si tu voyais la minutie qui est mise pour tricoter, ça prend là, à peu près 1h30 de faire installer les papiers sur la tête pour que tout tienne, tout soit naturel, que t'aies pas des grosses bandes de mèches dans tes cheveux. Puis non, c'est de la job. Là. Honnêtement, pour ça, t'as raison que ça coûte cher. Il y a pas tout le monde qui a le budget. C'est pas pour rien, moi, que j'y vois genre deux fois par année. Je pourrais pas faire un entretien au mois. Là. Faut que j'aie une couleur qui se rapproche de ma couleur naturelle parce que je pourrais pas, j'ai pas le budget. Ceci dit, il y a des salons de coiffure, oui, qui peut-être chargent beaucoup trop cher. Celui où moi je vais, j'ai tendance à dire que le prix est très raisonnable pour le temps qu'on met puis la job qui est faite.
Puis tu payes du cash?
Non, je paye pas cash. Puis tu vois, hier, ça m'a coûté 320 $. sais-tu quoi? J'avais une tendance à croire que les hauts montants allaient avec le blond, parce que faire un blond, c'est très touché. Les gars, je sais que vous avez aucune...
aucune idée.
Mais c'est parce qu'un blond, ça peut virer vert. Un blond, si t'es pas naturel... Moi, je suis naturellement blonde, fait que j'ai la chance que ça colle bien, mais ça peut venir bien compliqué, fait que c'est de la job faire un blond, puis ça coûte cher. Mais là, je suis plus brune que blonde, puis je m'attendais à ce que ça coûte moins cher. Ceci dit, je suis arrivée chez nous à 11h30 hier soir, là.
Okay.
J'étais chez la coiffeuse à 6h, je suis arrivée chez nous à 11h30, là.
Toi, t'es-tu employé ici, chez Leclerc Communication?
Absolument.
Parfait. Quand on te donne ta paye, là, c'est amputé d'à peu près combien en pourcentage?
J'imagine un bon 40.
À peu près 50.
40-50%
facile. À peu près 50. Ouais. Là-dessus, il y a un petit montant qui va te revenir plus tard, mais t'es amputé à peu près à 50%.
Oui.
Ça veut dire que ton 320$... Il a fallu que tu travailles pour 640$ pour avoir cette tête-là.
Mais dis-toi que j'y vais deux
fois
par année.
Il n'y a pas un gars qui s'en est rendu compte ici.
Je sais, c'est insultant. C'est épouvantable, c'est le pire. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin que vous le remarquiez, parce qu'on a vidé notre portefeuille.
320$. Je pense aux gens là, qui nous écoutent et qui travaillent, je sais pas moi, au taux horaire de 16 à 17 de l'heure.
Ouais.
Ou 20 de l'heure. Ils n'ont pas les moyens d'aller chez la coiffeuse.
Mais non. Mais là, en même temps, attends, là. Tu sais, moi... Ça dépend ce que tu fais faire. Si je vais faire couper mes cheveux, mettons, mes amplis, puis tout, ça va me coûter une cinquantaine de piastres, là. Tu sais, là, c'est parce qu'il y a beaucoup au travers de ça, là. Il y a des traitements. Moi, je t'ai dit, j'avais une correction de couleur. Mm. Ça, là, pour vous rendre ça simple, là, c'est que j'ai fait l'erreur dans les dernières semaines d'aller chercher une teinture de pharmacie. Et ça, une teinture de pharmacie...
C'est jamais ça.
Ben c'est parce que ça décolore spécial. Moi, je suis partie de brune à rousse dans les dernières semaines avec ça, puis ça va continuer de roussir. Puis tu peux pas enlever cette teinture-là.
T'es passée de brune à rousse?
Oui.
Puis Tichum, as-tu remarqué un changement?
T'es tellement con. Tichum, il m'aimait blonde, c'est ça le problème. Fait qu'il a fallu qu'elle fasse bien de la correction hier. Fait que ça a coûté cher, tous les produits. Mais non, c'est un montant, effectivement, qui est faramineux comparé à ce que vous dépensez.
Ouais. Moi, je serais curieux de savoir, parce que, bon, les produits peuvent être pensés au Québec, là, mais fabriqué à l'extérieur.
Ouais.
Je serais curieux de savoir... Là,
combien les produits leur coûtent versus combien ils les chargent.
Tu sais, comment ça coûte fabriquer? Là? Moi, je pense que ça peut être 20 cents ou 2 piastres. Là. Puis après ça, ça arrive au Québec. Là. Puis là, ben, la compagnie se prend une grosse cote. Puis le salon doit se prendre une cote sur chaque produit aussi, bien entendu.
Mais ça dépend de la qualité des produits aussi, encore une fois. Tu sais, il y a mille et une affaires qui rentrent dans balance. Mais ça dépend
pas des ingénieurs
vas.
De la NASA qui testent les produits.
Yann, honnêtement... Hey, Seigneur, il faudra en inviter une. C'est des formations. En tout cas, je vais parler pour le salon où moi je vais, là, mais moi, ma coloriste, là, elle est tout le temps partie ici et ailleurs dans le monde. Là, ça va à Paris bientôt. Là. Des formations et des formations pour toujours avoir les meilleurs produits, la meilleure technologie, pas casser ton cheveu, faire en sorte que tu n'as pas à revenir aux 3 semaines.
Je parle des gens qui fabriquent les produits, pas les coloristes.
Oui, mais les coloristes, c'est eux autres qui nous les chargent au final.
Oui, c'est ça. Mais je me dis, tout le monde se prend une cote.
Mais oui.
Tu as le fabricant, lui, que ça doit coûter comme 2-3 piastres faire
mais
chaque
pot. Mais oui, ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu payes pas juste pour le produit, tu payes aussi pour le temps qui est mis, la technique. T'sais, tu payes pour la qualité de ce qu'on t'offre. Là, si je vais, puis là, écoute, je vais dire ça avec plein de jugement, c'est pas plein de jugement. Les meilleures kiffeuses sont des villages, OK? Mais si tu vas dans un village, tu comprends où c'est Sylvie qui fait ça depuis 50 ans, puis qu'elle a pas renouvelé sa technique, versus Josette, tu comprends, qui fait des formations. Bien, c'est parce que ça se peut que, mec, t'ailles voir Sylvie, ça va te coûter juste 90$, mais tu vas ressortir avec des grands bande comme dans les années 2000, puis ça va être là en sacramento ce que tu vas avoir sur la tête.
Isabelle me dit, Yann, une coloriste, ça fait beaucoup de chimie avec les mélanges.
Ben oui. Ah non, c'est vraiment, c'est mathématique leur affaire, c'est assez particulier. Ils notent ta formule, hein. C'est des chiffres puis tout pour être sûr que t'es exactement la même couleur, puis le... C'est pas Yann, juste j'ai un noir, un brun puis un blond, puis choisis lequel tu veux entre les trois, là.
Un enquêteur nous écrit. Faut y faire confiance. Quand j'étais chez la coiffeuse, elle a reçu une commande. Elle a dit à la réceptionniste, fais x2 pour les étiquetages de prix.
Ah ben là, ça dépend d'où tu vas. Il y en a qui sont malhonnêtes, il y en a qui sont honnêtes, ça c'est sûr. Mais oui, ça coûte cher. Puis moi, je crois beaucoup à la taxe rose. Il y a quelqu'un qui dit ça là,
mon
sur chum le
Jeff,
Twitch, là.
Chauffeur d'autobus dit, beaucoup d'argent mis en recherche et développement des produits. La taxe rose, oui, vous faites arnaquer.
Mais totalement. Moi, ça, j'y crois totalement à la taxe rose. Je comprends pas encore pourquoi nos produits d'hygiène ne sont pas gratuits, tu comprends? Ou j'ai encore plein de questions par rapport à ça.
Matt te dit, Audrey, demande-toi pas pourquoi les moyens d'aller à Paris.
Attends, non, ça, c'est une affaire d'entreprise. Hey, là, faut pas être malhonnête, par exemple, tu sais.
Hey, on salue tous les gens qui travaillent dans le cosmétique. on vous apprécie, mais parfois,
mais
on trouve que vous pesez trop... sur la pédale à cash.
Oui, mais ça, c'est partout. N'importe quel business, ils font ça avec le linge aussi.
Excuse-moi,
rendu là.
Mon barbier, il ne charge pas cher.
Ben, t'es chanceux.
25$ pour me transformer en top model.
Oui, mais t'as rien, Yann. T'as 3 poils à te faire couper sa tête. Je pourrais le faire.
Ben non, j'ai 3 poils. Je suis pas Maxime. Comment il s'appelle? Maxime Larouche?
Ben non, mais t'as un toupette, c'est tout, là. Je veux dire, je pourrais faire tes cheveux. Ils sont pas compliqués, là.
Ils me font dégrader.
Mais tabarnouche. De moi, Clipper. Ben, te faire ça à 0 puis à 1, là. Tu comprends? Dans le sens qui...
20$ cash, on s'entend-tu là-dessus?
15, je te fais ça en 15.
15 cash!
Au coup, je te rate.
C'est vendu.
Mais ça m'a permis quand même un me-time hier. J'ai pu écouter mes petites émissions avec mes papiers sur la tête. J'ai écouté Occupation double. Je me suis mis à jour sur mes affaires.
Oh, pathétique.
Non, mais c'est du temps personnel.
Christian t'a dit, Audrey, c'est pas de l'ingénierie spatiale. Assume-toi, tu te fais avoir.
Je sais que vous le voyez comme ça, puis c'est correct. Mais laissez-moi dans mes illusions. Pour vrai, écoute, mon chum pensait de même aussi, puis je pense qu'il pense encore comme ça. Il trouve que ça coûte cher. Vous connaissez
mais
la réputation,
Audrey,
de mon chum.
320$. Si t'es employé dans une entreprise, t'as travaillé pour 640$.
Ah oui, totalement. Ah, 100% là. Full. Full. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis 4h30 assise à la chaise. Tu sais, au final, ça se paye. Avec les produits, si tu divises ça puis tout, je me dis que ça fait du sens.
Mais es-tu tout le temps en train de travailler sur ta tête ou des fois, t'es à l'écart puis t'attends?
Hey, ça prend 1h30, Yann.
Ouais.
1h30 où ce qu'elle est là puis elle me tricote les cheveux pour me mettre des mèches. C'est long, là!
T'as peu. Mes enquêteurs m'écrivent au 418-971-101. Salut, Yann. Ma blonde est coiffeuse. Les produits sont extrêmement chers, même si ma femme a des rabais dessus. Donc, imagine quand c'est le temps de le charger. Il y a des salons qui chargent beaucoup trop cher, mais il y en a qui se respectent comme celui à un conjoint qui sont pas si pires. Elle peut passer 4 à 7 heures sur une tête dépendant de la job.
C'est débile quand tu y penses, là.
Ouais.
J'aurais jamais la patience de faire ça pour vrai. Un, là, quand t'es coiffeuse, coloriste, peu importe, là, t'es psy, là. Je veux dire, t'es obligé d'entendre ton client te parler de ses bébelles personnelles, tu comprends, pendant 4 heures de temps, quand tout ce que tu veux faire, c'est arranger la tête.
Moi, je vivais à une époque où les gardiennes d'enfants s'appelaient pas des éducatrices spécialisées en garderie.
Ouais, c'était des gardiennes.
Je suis né à une époque où les coiffeuses, c'était des coiffeuses, c'était pas des psychologues.
Il faut juste être réaliste. C'est juste ça. Tout se paye aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est le même partout.
Et Audrey, si ça te fait du bien, continue à prendre soin de ta tête. Kevin qui dit ça.
Bon, Kevin a tout compris.
Isabelle dit, Yann, c'est 20-30$ une tête d'homme. T'as pas de temps de pause. Moi aussi, Audrey, je mets des sous sur mes cheveux, mes shampoings et masques hydratants.
Ça, c'est l'autre affaire qui coûte cher. Ça, tu vois, ça, j'ai beaucoup de jugement. Les produits, Yann, là, pour entretenir tes cheveux, excessivement cher. Parce que là, mettons, ton shampoing puis ton revitalisant, okay, là, t'en as pour à peu près 60$. C'est pas 5$ la bouteille comme à la pharmacie, là. T'en as pour à peu près 60$ pour ton shampoing revitalisant. Mais là, attention, si tu passes le fer dans tes cheveux, mettons que j'ai frise, là, ou que j'ai fait plat, là, il faut un protecteur de chaleur. Sinon, je vais briser mes cheveux.
Ben oui.
Protecteur de chaleur, 50$.
Ben 50, ben oui.
Fait, tu comprends, ça monte. Les produits, c'est épouvantable. Et là, tu veux que tes cheveux soient hydratés. Mais fait que là, il te faut un masque pour tes cheveux.
Je pose une question à mes gars là, qui nous écoutent. 418-971-101 par texto. Est-ce que je suis le seul à ne pas pouvoir prendre du shampoing de ma conjointe?
Ah, tu touches pas à ça?
Elle veut pas.
Hey, cibole. Hey, si mon chum touche à une de mes bouteilles de shampoing, là.
Si chum prend le bord.
Ça coûte tellement cher, on n'a pas les moyens de le partager, là. Quand je reçois des amis chez nous, OK, là, c'est une des choses à laquelle je pense. Bon, on prend leur douche. Ils vont prendre mon shampoing, mon revitalisant. Merde. Ça coûte cher. C'est débile.
Il y a des gars qui disent, oublie ça, au prix que ça coûte, elle va m'arracher la tête.
Hey, gars, tu vois, il y a quelqu'un ici qui nous dit que son barbershop, là, c'est 100$.
Audrey Bobbitt. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant.
Oui.
Ma blonde est comme Audrey. Elle met beaucoup d'argent sur sa coiffeuse, les produits capillaires, sans parler des crèmes pour le visage et autres. Moi, je m'achète des bouteilles de scotch. Martin.
Ben, c'est une... Écoute, on met de l'argent où on veut, là. Tu sais, je veux dire, encore une fois, c'est une question de choix. Moi, je paye pour aller au spa parce que je sais que je dors bien au spa. Il y en a, tu comprends, qui font pas ça. Mais moi, c'est nécessaire. Il y a quelqu'un qui dit « Salut, si tu voulais que ça coûte 40$, tu serais capable, assurément pas. » Une coupe de cheveux pour une fille, c'est au moins 40$.
Ouais, mais barbershop à 100$.
Ça, ouais, ça.
Je veux dire, moi, tu me verras jamais à la face-là.
Mais en même temps, c'est plate à dire, mais marketing thing. Si c'est un barbershop qui est full populaire sur les réseaux sociaux, qui prend de l'ampleur, les gens vont aller là par curiosité. Il y a une couple d'années, il y a une fille d'Occupation double, Men's Club, là, c'est pas loin ici, en plus, dans le Bourgneuf. Hey, les gars, là, c'était rué ben raide là, vers ce barbershop-là. Là. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Elle monte ses prix, c'est bien sûr. La demande est forte.
Audrey me demande... On veut que je demande à Audrey, est-ce que tu veux qu'on parte un GoFundMe pour tes cheveux?
Jamais je veux qu'on parte un GoFundMe pour moi. J'ai vraiment de la misère avec ça, surtout pour une tête de cheveux.
Salut,
mais j'apprécie, j'apprécie.
Ça m'a coûté 420$ mèche toner et coupe la semaine dernière. Un record. Elle dit plus jamais.
420$. J'espère qu'ils sont beaux au moins. Parce que ça, c'est le plus insultant quand tu sors et t'es déçu. C'est épouvantable.
C'est un barbier de hipster. Ouais, peut-être. Je sais pas. Yannick, l'homme peut pas prendre nos shampoings. Ils seront trop hydratants et tu auras les cheveux gras. Voyons donc.
Mais ça, c'est vrai que c'est un autre point, par exemple, parce qu'il y a des... il y a une richesse dans les produits. Moi, il y a certains produits que je peux pas utiliser. Je sais que tu ris. Arrête! Il y a une richesse dans les produits. Il y a certains produits là, qui sont trop hydratants, puis tes cheveux deviennent super lourds. Ils te collent à la face. Ils ont tout le temps l'air gras. Moi, je peux pas utiliser ces produits-là. J'ai trop les cheveux fins.
Ouais. Tu sais, je me mets juste dans la tête d'un Éthiopien qui écoute tes problèmes présentement.
Je sais. C'est... Non, ça, je sais. Non, arrête. Là, tu... Pente
ça s'appelle la démagogie.
C'est épouvantable ce que tu viens de faire. Je regrette les 16 dernières minutes de cette émission.
Non, c'est des produits, là. Tu pourrais aller sur la Lune avec ça, puis peut-être faire un autre bout pour aller
sur Mars. Non, mais c'est une technologie.
Ah, j'en doute.
Comme une autre.
Oh, des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus.
Non, mais chacun son domaine. Ah, t'es épouvantable, Yannick. Tu sais pas de quoi tu parles.
Des chimistes.
Tu sais pas de quoi tu parles.
Ben, tu sais quoi?
On fait bien de la radio.
J'aime mieux pas savoir de quoi je parle quand tu me parles de coupe de cheveux à 320$. Ça me coûte moins cher de pas savoir de quoi je parle. Les trois accords dans mon corps sur Boulevard, ça suit. Et dans les prochaines minutes, on aura le plaisir de recevoir une vétérinaire qui s'appelle Natacha Barrette.
Oui, elle a... maintenant, elle est vête à la maison. Ça s'appelle Mon vête à la maison, sa page Facebook. Puis on va jaser de toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup à dire, là. Que ce soit le fait que ça coûte des sous, que ce soit les assurances pour les animaux, on n'en parle pas assez. La beauté du métier, les enjeux aussi. Je pense que chaque personne qui a un animal de compagnie peut s'entendre pour dire que, Christy, qui manque de vétérinaire, on a de la misère à trouver une place.
Ouais.
Fait que c'est de tout ça qu'on va jaser avec elle dans les prochaines minutes. Puis plus tard, on va jaser avec Steve Waterhouse d'intelligence artificielle, puis d'où c'est qu'on est rendu au Canada avec tout ça.
Très cool. Puis si vous avez pris des assurances pour vos animaux de compagnie, j'aimerais ça savoir par texto au 418-971-1021 comment ça vous coûte par mois des assurances pour vos animaux. Les trois accords dans mon corps sur Boulevard. Passez un excellent mardi. Je me suis rasé les aisselles en pensant à toi. Si on a quelque chose en commun, moi, Audrey, c'est bien l'amour des animaux.
Oui.
On a tous les deux un Golden Retriever qu'on aime bien qualifier de personnage très particulier.
Des patates!
Comment?
Des patates! Sont comme soit vraiment intelligents, soit vraiment innocents. Ça dépend des jours.
Oui, mais dans le même corps.
Oui.
C'est ça qui est hallucinant. Puis tout dépendait des situations dans lesquelles ils sont. Moi, j'ai un Golden Retriever qui parfois considère que son plancher, exemple, dans le salon, lui appartient.
Oui, c'est son espace.
Quiconque pile sur son plancher, sauf ses chats, ses frères et sœurs, là, parce qu'il y a deux frères et sœurs. Si les chats pilent sur son plancher, c'est correct. Mais s'il y a un être humain qui pile sur son plancher, là, il commence à grogner.
C'est fou, hein?
Oui. Puis là, il dit, Lucky, c'est correct. Puis là,
tout
il arrête.
Tout est beau. C'est tellement nono. On les aime.
Puis là, on s'en va dans la cuisine, on revient sur son plancher, il regrogne. C'est n'importe quoi.
Mais là, tu sais, il a l'air particulier. Tu vois, le mien, je le qualifie d'un peu plus intelligent quand même. Là.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on se comprend mieux. Il grogne pas après moi quand je rentre dans la maison.
Jamais?
Jamais.
Puis il grogne-tu après toi pour la bouffe, exemple?
Jamais.
Ah, ouais.
Mais c'est, moi, c'est quelque chose qui me faisait peur, ça, en vue d'une famille. Fait que je veux dire, puis écoute, c'est peut-être des mythes, là, mais nous autres, on nous disait, reste proche quand tu es dans sa bouffe. Tu essaies de. Gosse-le le plus possible.
Ah, que, d'après pour... moi, ça, tu l'as appliqué.
Absolument. Du mieux que je pouvais. Mais je l'ai assez gossé qu'aujourd'hui, patate, il écoute. On n'a pas trop de troubles avec.
Bon, puis on a posé une question avant la pause parce qu'on va rencontrer une vétérinaire dans les prochaines secondes. Puis on a posé la question aux auditeurs. Si vous avez des assurances pour vos animaux de compagnie, comment ça peut vous coûter? Moi, j'avais entendu entre 25 et 35 $. Puis il y a des auditeurs qui nous ont écrit autour de 30, 28. Mais on me dit, dans les dernières secondes, que ça pouvait dépendre de l'âge de l'animal, bien entendu.
Plein de facteurs.
C'est très, très, très logique. Donc, on a le plaisir de recevoir en studio Natacha Barrette, qui est mon vet à la maison. Salut, Natacha.
Oui, salut.
Merci beaucoup d'être là. Est-ce que c'est une première pour toi, la radio?
La radio en studio, oui, c'est la première fois.
Ouais. C'est combien d'années que tu es vétérinaire?
Écoute, j'ai gradué en 92, j'avais 22 ans. Donc ça fait quand même un petit bout. Là.
Toujours aussi passionné?
Ah oui, j'adore mon métier.
Puis,
ouais.
Au départ, là, tu voulais être vétérinaire, parce qu'il y a plusieurs types de vétérinaires. Là. Mm-hmm. Moi, j'en ai connu en Beauce qui font juste, c'est des spécialistes des grosses bêtes. Là.
Ouais.
Toi, tu voulais être vétérinaire spécialisé ou vétérinaire pour tout le monde, mettons?
Je voulais être une vétérinaire généraliste. Il faut dire que quand j'ai gradué en 92, là, ce qui nous ramène quand même plus de 30 ans, il y avait beaucoup moins de je dirais, de spécialiste. Là. C'était moins quelque chose auquel on aspirait. Ceci dit, je ne dis pas que ce n'était pas dans l'idée des gens, mais si on voulait le faire, il fallait absolument aller aux États-Unis. Puis là, ben, ça devenait quand même un gros contrat, là, puis beaucoup de sous. Là, on sait c'est quoi étudier aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, la réalité a quand même beaucoup changé. Là. Il y a des gens qui peuvent se spécialiser en, tout en restant au Québec et même à Québec. Là. Fait que, t'sais, j'ai une collègue là, qui est devenue spécialiste en dentisterie vétérinaire. Elle a fait sa formation ici même. Là.
C'est un dentiste pour les animaux.
Ouais, ben oui, ça existe.
En vrai, dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, un vétérinaire s'occupe de tout. J'ai jamais pensé aux différentes spécialités.
Il y a des vétérinaires généralistes comme moi qui faisons de tout. Là. On est des dermatologues, des chirurgiens, name it, là, toutes les spécialités que tu peux imaginer, on se doit d'à peu près toutes connaître. Parce que le patient qui nous arrive, il peut avoir un problème dans toutes ces sphères-là. Là. On est aussi des psychologues, des travailleurs sociaux.
Pour les humains ou pour les animaux?
Pour les animaux. parce que, ben, tu sais, l'animal, jusqu'à preuve du contraire, ne viendra pas tout seul en clinique. Il va être accompagné de son humain. Puis on sait ce que c'est les humains. Hein. Il y en a qui nous aident beaucoup, puis il y en a qui nous aident beaucoup moins. Parce que c'est eux qui doivent nous dévoiler ce qui observe à la maison, mais encore faut-il qu'il l'observe ou qu'il ait la capacité de comprendre ce qu'il observe, que c'est un problème en soi. Bref, on est un peu à la merci de ça. Donc, moi, je suis généraliste, mais j'ai plusieurs de mes collègues, de mes amis collègues qui sont des spécialistes dans différents domaines. Okay. Une de mes meilleures amies est oncologue, elle travaille à Laval.
Oui.
Fait que pour les cancers chez les animaux.
Bien sûr, ben oui.
Y a-t-il des... Hey, là, ça va avoir l'air vraiment nono comme question, mais y a-t-il des traitements pour le cancer chez les animaux?
Bien sûr! Ah oui, ça, là, c'est tout un monde. Là. Surprenamment, les gens, tu sais, ils voient ça toujours comme « Ah non, je ne ferais pas subir ça à mon animal. » Tu sais, là, on s'imagine, on fait beaucoup d'anthropomorphisme, on se met à leur place. Mais souvent, les plans de traitement ont beaucoup moins d'effets secondaires que chez les humains. Bon, dans certains cas, ce n'est pas toujours curatif. Là. Des fois, c'est palliatif. Mais tu sais, si on donne à un animal, mettons, une année de vie de plus, là, ben il est supposé de vivre 10 ans. Si j'en donne une de plus, c'est 10 % plus long. Là. Puis pour le maître, ça permet... Parce que là, moi, je travaille surtout en fin de vie, comme on pourra discuter éventuellement, mais moi, je la vois, la différence. Les gens qui requièrent mes services d'euthanasie à domicile, quand ils ont eu un oncologue qui les a accompagnés des soins pour leur animal, ils s'assuraient évidemment toujours que c'était pour le bien de l'animal au départ, mais c'était aussi une façon qu'ils avaient de se préparer à ce qui s'en venait. Puis ça fait toute la différence.
Ah, ça fait vraiment une différence. Puis quand on va faire euthanasier un animal, puis on connaît la date, on peut le gâter avant cette fameuse date-là. Tellement d'histoires tristes, des fois, que je vois passer sur les réseaux sociaux, peut-être en raison de mon algorithme, là, parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Puis je vois des gens qui ont perdu, tu sais, sont réveillés un matin, puis le chien ou le chat était décédé. Ouais. Tu sais, t'as pas le temps de se dire bye-bye. Là.
Ouais, mais ça, c'est pas le pire scénario. Ça, je te dirais, personnellement, ça demeure un scénario avec lequel on finit quand même par faire la paix. On se rappelle du chat, on se rappelle effectivement de l'avoir trouvé décédé, mais on se rappelle pas de drame autour de son... à part la découverte de son corps.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé longtemps en urgence. C'est beaucoup plus dramatique quand tu as un client qui arrive avec son animal puis qui pense pas qu'il y a quelque chose de grave, qui s'attend à ce qu'on lui dise « Ah, ça va guérir avec tel médicament, vous pouvez repartir chez vous », mais que non, on leur annonce quelque chose de grave pour lequel ils doivent prendre une décision rapidement. Et on doit parler d'argent aussi à travers tout ça. Tu sais, c'est loin d'être facile, c'est très explosif comme situation.
Tu sais qu'ils souffrent aussi. Tu sais, ce qui est spécial, on dirait, avec les animaux, c'est ça, c'est qu'on parle pas le même langage, là. On se comprend pas nécessairement, là. Fait que, ben, en fait, on se comprend pas, point.
Ils nous parlent, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de communiquer.
Non, exactement.
Si on est attentif, il y a beaucoup de choses qu'ils nous disent.
Ouais. Ah, c'est ça. Écoute, je te crois complètement. Je suis la première à dire que des fois, j'ai l'air un peu débile, mais j'ai l'impression que moi et mon Golden, on se comprend 100%. Non,
ben
là. Mais j'ai le sentiment que souvent, ce qui fait mal aussi, c'est l'appréhension. Puis le tu sais, moi, si demain matin, j'apprends que mon chien, mettons, a un cancer puis souffre depuis des mois, puis j'étais juste pas au courant ou je l'avais pas remarqué pour mille et une raisons, j'ai l'impression qu'il y a une culpabilité qui rentre en compte aussi, tu sais, de ne pas t'être rendu compte que, hey, mon animal a mal depuis ces mois-là, puis là, il va falloir qu'il décède, là.
Mais les propriétaires d'animaux de compagnie sont capables de détecter assez facilement s'il y a un changement chez leur animal. Tu sais, on parle pas la même langue, on va se le dire, mais on est capable de détecter au niveau corporel qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, mon chien, quand il me fixe, là, puis il est en face de moi, puis il est sur le bord, mettons, il est où la cuisine? Je sais qu'il veut sortir dehors. puis à chaque fois, je dis « dehors », puis là, tu le vois qu'il est super excité d'aller dehors. Fait que, tu sais, je détecte ça, même si je n'ai jamais appris à détecter ça. Je voulais te poser une question avant de rentrer dans d'autres sujets, Natacha Barrette. Quand on t'apporte un animal, bon, tu sais, les chats, les chiens, c'est assez commun là, pour le vétérinaire. J'imagine que vous avez étudié pas mal tout le système des chats et des chiens. Mais quand on t'apporte, je sais pas moi, un gecko ou encore un serpent, tu fais quoi avec ça? Je veux dire, on sait pas commun comme animal.
Oui, bien, en fait, il y a peu de chances que ça arrive, dans le sens où, bon, le personnel qui prend les appels puis qui place des rendez-vous, ils savent très bien si l'entreprise, la clinique vétérinaire offre ce genre de service-là. Parce que c'est pas rendre service à un client et à son animal de le faire venir si le vétérinaire a aucune expertise sur les lézards, par exemple. Mais on parlait de spécialité tantôt. Il y a des cliniques vétérinaires qui sont spécialisées dans les exotiques. Il y a des spécialistes dans des centres de référence. Il y a des vétérinaires, parfois généralistes, qui ont un intérêt pour les exotiques sans être spécialisés, mais ils vont, à travers leur pratique plus standard canine-féline, intégrer les animaux exotiques. Ça, le personnel le sait, puis il va placer le rendez-vous avec la personne, tu sais, qui est à l'aise, parce que c'est tellement pas la même game soigner un lézard, qui est un animal à sang froid, ouais, versus un chien. Puis tu sais, on a parlé tantôt là, qu'il faut qu'on soit des spécialistes de tout. Puis s'il faut qu'on soit spécialiste de tout, dans toutes les espèces, là, essayer d'imaginer la quantité d'informations, c'est impossible.
Quelqu'un t'amène une tarentule, là.
Ah, ben il m'amène pas de tarentule, en fait.
C'est ça que j'allais demander, ça arrive-tu, ça? Ben,
c'est ça.
Il y en a des tarentules malades.
Oui, mais il y a des cliniques qui font ce genre de soins-là.
Wow.
Oui,
okay,
oui,
c'est
oui.
Particulier.
Puis si je peux me permettre, parce que hier, sur le groupe privé des vétérinaires du Québec, on est plus que 2000, je pense même 3000, j'ai posé la question à un collègue. Je voulais me préparer, là, tu sais, là, j'ai fait mes petits devoirs. Puis il y a une vétérinaire spécialisée en exotique, justement, qui m'a donné... Je demandais, dans le fond, au vétérinaire, de quoi vous aimeriez, tu sais, que je parle. Puis si on parle d'argent, qu'est-ce que vous voulez aussi que je dise au public, là, tu sais, parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent. Pas juste pour les coiffeuses, finalement. c'est ça. Puis il y a une vétérinaire d'exotique qui m'a dit « Hey, c'est important que tu dises que les gens, ils doivent s'informer avant d'adopter. » Tu sais, tu vas pas, sur un coup de tête, t'acheter, mettons, une espèce exotique, surtout une espèce exotique, où l'environnement, tu sais, ça y prend-tu un vivarium, il mange quoi, où c'est que je vais acheter ça? Il y a tellement d'informations qu'on doit aller chercher. C'est vrai aussi pour les chats, les chiens, puis surtout si on veut une race en particulier.
Mais ça, c'est un méchant bon point, parce que moi, je sais pas, Yann, toi, mais moi, quand je suis allée chercher mon Golden, j'ai eu la chance de tomber sur une dame qui a un élevage dont tu apprends excessivement soin. Mm-hmm. Puis elle me disait, sache que les Golden, c'est un des meilleurs chiens, puis bon, tout le positif, mais dysplasie d'ange, par exemple. Ça se peut que ton chien soit pogné avec ça, puis qu'il y ait une opération à y avoir ou qu'il y ait des soins supplémentaires à donner. Tu sais, ça vient avec le contrat que tu signes quand tu décides de t'occuper de ton animal. S'il est sujet à certaines maladies ou sujet à certaines, je sais pas moi, blessures physiques, tu sais, il faut que tu sois prêt à assumer les conséquences de ça, là.
C'est tellement vrai. Je veux prendre un exemple aussi très concret. Moi, j'habite Limoilou, il y a un parc à chiens. Souvent, je passe avec mon chien, mais je vais pas, parce que moi, Babette, elle fait 5 livres. Puis 5 livres, c'est comme plus un gros écureuil pour eux autres. Fait que j'ai pas le goût de m'en faire manger. Mais je regarde, tu sais, les chiens qui sont dans le parc à chiens, ça fait un beau reflet de c'est quoi les chiens à la mode. Puis le French Bulldog, le Bulldog français, là, c'est la grosse mode. Puis en passant, moi, il n'y a pas de race que j'aime pas, là. Tu sais, j'aime tous les chiens et tout ça, mais je suis quand même un professionnel de la santé. Donc, je regarde ça avec des lunettes différentes de monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. On les aime parce qu'ils ont le nez plat, mais nez plat, ça veut dire aussi voie respiratoire très restreinte, difficulté à respirer, donc des problèmes de santé à venir qui peuvent être graves, là, tu sais. Fait que, tu sais, la personne qui succombe à l'envie d'avoir un beau petit Frenchie parce qu'il y en a partout, justement, puis qui n'a pas lu avant, puis qui n'est pas allé chez un bon éleveur, puis c'est toujours ça le danger quand une race est à la mode. Il y a plein de gens qui veulent produire, et là, je mets des guillemets autour de produire, de ces chiens-là, parce que là, il y a de l'argent à faire. Fait que les mauvais éleveurs, là, ceux qui font ça en broche à foin, ils commencent à s'improviser éleveurs de French Bulldog, tu sais. Mais les bons éleveurs, là, eux autres sont plus rares. Fait qu'on se ramasse avec plein de problèmes de santé. Puis évidemment, bien, ces problèmes de santé-là, les gens viennent chez le vétérinaire, puis bien évidemment, on le sait, ça coûte des sous. Puis là, bien, à un moment donné, ils trouvent que leur chien leur coûte cher. Fait que, tu sais, c'est des abandons, des euthanasies. Fait que, il faut s'éduquer avant.
Mais il y a comme une... Ça, là, c'est un point qui est vraiment... Puis je sens que ça change, mais... Tu sais, je vais penser, mettons, à mes grands-parents quand il y avait leurs animaux, là. Tu sais, la façon de traiter ton animal était différente. Oui. Puis moi, je veux dire, dans ma famille, ils en ont toujours pris soin, mais je veux dire, de laisser le chien dehors à la journée longue, ça faisait partie de... Mais non, il aime ça, il est bien. Tu sais, dans toute la façon de traiter... Il y a un cancer, ben non, mais il vit juste 8 ans, anyway. Mm-hmm. Je ne mettrais pas 5 000 $ pour régler son cancer, il va mourir de toute manière. Tu sais, je veux dire, la mentalité était très, très différente parce qu'au final, c'est des animaux, tu sais, puis qu'on n'avait pas le même, je veux dire, lien peut-être qu'on a aujourd'hui de plus en plus avec un animal de compagnie. Fait que c'est sûr que des fois, l'argent, ça faisait peur aux gens parce que c'était comme, mais là, je vais-tu vraiment investir tous tes sous-là? Je suis-tu niaiseuse d'investir cet argent-là pour un animal qui ne t'offre pas 50 plus, tu sais?
Mm-hmm. Ben écoute, moi, la chance d'être rendue dans la cinquantaine, c'est que j'ai vu passer quelques décennies de clients.
Ouais.
Puis j'ai la chance aussi, je suis née dans une famille de vétérinaires. Hein? Fait que moi, mon père est un vétérinaire à la retraite. Il y avait un gros hôpital à Montréal. Il était parmi les pionniers, là, je dirais, de la médecine vétérinaire des animaux de compagnie. Il faisait de la chirurgie orthopédique à une époque où, je veux dire, on s'entend, il n'y avait pas beaucoup de monde qui offrait ça. Tout ça pour dire que j'ai grandi dans les cliniques vétérinaires, il y avait un bureau vétérinaire dans la maison. Fait que, tu sais, j'ai vu ça depuis ma naissance, en fait. Puis, effectivement, à l'époque, tu sais, les animaux avaient une utilité. Tu sais, tu avais une ferme, tu avais un chien pour le troupeau, tu avais des chats pour les souris. Tu sais, c'était des animaux utilitaires beaucoup plus qu'aujourd'hui ça peut l'être. Puis là, je parle des animaux de compagnie, évidemment. Tu sais, on n'aurait pas pensé justement avoir un gecko il y a 50 ans, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Fait que, tu sais, les choses ont beaucoup, beaucoup changé et la place de l'animal de compagnie a évolué et là, ils sont au cœur des familles. Moi, Babette, mon chien, là, elle couche dans mon lit. Catine comme un humain, là, tu sais. Puis je sais, là, que bon, c'est un peu too much, mais je vis toute seule avec elle dans un loft de Limoilou. Tu sais, à un moment donné, là, c'est le seul être vivant à part mes plantes, là. Fait que, tu sais, c'est mes enfants sont grands, mon chien s'est rendu ma vie. Fait que je les comprends, mes clients, là, quand ils me disent ça. Je suis comme ça, moi aussi. Fait que la place est différente. Puis moi, si Babette, ben elle a besoin de quelque chose, puis c'est même pas parce que je suis vétérinaire, c'est parce que je suis une maître responsable. Je vais faire les soins qu'elle a besoin. Mais il fut un temps où, c'est ça, il fallait que l'animal utilitaire, s'il n'était plus capable de courir, ben c'est plate à dire, on ne va pas le nourrir pour rien. Ouais. C'est un peu une autre...
Puis il faut souvent consulter les spécialistes pour savoir si notre animal de compagnie souffre.
Bien, c'est sûr que nous, on a l'œil. Hein, ouais. Tu sais, je veux dire, quand ça fait longtemps que tu pratiques, même à tes débuts... Là,
un chat, ça cache ses douleurs.
Ah, les chats, c'est une espèce... Bien, tous les animaux qui, dans la nature, seraient des proies plus faciles, ont en eux l'instinct de cacher ces choses-là. Parce que si ça paraît que tu es malade, bien là, tu deviens encore plus susceptible d'être mangé, d'être, dérangé par d'autres espèces. Fait que là, ils ont l'instinct de cacher ça, mais ils l'ont gardé en eux, même s'ils n'ont plus besoin.
OK.
Deux questions rapides, Natacha Barrette. La première, est-ce que c'est vrai que les animaux bâtards, donc un chat croisé ou un chien croisé, ça dure plus longtemps en termes de vie qu'un animal de race?
Non. J'ai justement vu une étude, malheureusement, je ne pourrais pas vous citer la source parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'y viendrais à la radio, fait que je ne l'ai pas conservée. Mais ils ont vérifié ça parce que c'est une affirmation qu'on entend souvent. Mais non, si on prend la race croisée la plus populaire, c'est le Golden Doodle, qui, en passant, n'est pas une race, mais un chien croisé, qu'on paye à gros prix, cependant. Ça, c'est une chose qu'on va parler tantôt d'argent, mais si je peux dire de quoi, quand vous payez 2 000 $ pour un chien croisé qui s'appelle Golden Doodle, bien, venez pas vous plaindre que les frais vétérinaires sont chers parce que vous venez de payer 2 000 $ pour un croisé, un bâtard. Bon, ça, c'est une petite frustration de vétérinaire qui vient de sortir. C'est juste parce qu'on se le fait dire souvent. Un chien de race, Golden Doodle. Non, c'est pas un chien de race. C'est une création humaine. Puis oui, c'est cute. Puis, tu sais, j'enlève rien au Golden Doodle. Puis les gens qui en ont, je vous aime, inquiétez-vous pas. C'est juste un peu frustrant parce que c'est pas la réalité. On peut pas appeler ça une race. Puis si la personne dit... de façon erronée. Je fais ça parce que je veux diluer la génétique, augmenter, tu sais, l'espérance de vie ou je ne sais quoi. C'est faux. Ça ne fonctionne pas
L'espérance
comme ça.
L'espérance de vie, elle a-tu augmenté dans les dernières années? Tu as quand même pas mal d'expérience dans la cravate.
Peut-être pas, mais dans les dernières décennies, oui. Parce que, c'est vrai pour les humains aussi. Là. Ouais. Je veux dire, moi, quand j'ai gradué, là, à l'époque où j'étais encore étudiante, est arrivé dans la clinique un appareil à échographie. Et là, tu sais, on était tout énervés. Puis tu regardais ça, c'était comme une vieille télé des années 60. C'était des petits picots, tu sais. C'était pas la qualité d'aujourd'hui où tu as l'impression que tu vois des micro-détails incroyables. Mais tu sais, à cette époque-là, c'était waouh. Mais là, aujourd'hui, les cliniques vétérinaires, bien, peut-être pas les cliniques, mais les centres de référence, les centres d'urgence, ils sont maintenant équipés comme... Souvent, les hôpitaux le sont, avec des scans, des résonances magnétiques. Tu sais, je veux dire, on n'est plus à la même place.
Ouais, puis la nourriture s'est améliorée aussi.
Oui, les soins en général, tout ce qui est préventif aussi, on a souvent fait ce qu'on appelle du curatif. On se croisait les bras puis on attendait que les animaux soient malades pour faire quelque chose. Mais là, de nos jours, les gens sont beaucoup plus conscients que si on prévient les maladies, si on fait voir son animal régulièrement, là, puis régulièrement, c'est pas tu sais, tous les semaines, là, c'est exemple une fois par année, bien, on peut prévenir des maladies. Chez le chat, là, on disait tantôt qu'il ne parle pas beaucoup, on ne voit pas vraiment. Bien, il y a une chose qui parle beaucoup, c'est quand tu pèses l'animal chaque année, puis qu'à un moment donné, il se met à perdre du poids sans raison. Là. Pas qu'on l'a mis au régime, là, mais tu sais, qu'il se met à perdre du poids. Puis là, on ne parle pas de perdre 3 livres. Là. Il a perdu 100 grammes, 200 grammes, c'est comme, oh!
C'est un indice.
Je veux dire, ça, c'est un indice en soi. Mais s'il ne vient pas chez le vétérinaire se faire peser chaque année, on va passer tout droit.
OK. Puis ma deuxième question, on va y aller rapidement parce que je veux parler de plein d'autres sujets avec toi, Natacha Barrette. Quand est arrivée au Québec l'interdiction du dégriffage pour ce qui est des chats, tu t'attendais-tu à une telle montée là, dans la société? Les gens étaient bien fâchés envers les vétérinaires. Tu t'attendais-tu à ça?
Je vais être honnête que je me suis préservée beaucoup de ça, dans le sens où je suis quelqu'un de très sensible. Et voir tous ces commentaires-là et bien d'autres qu'on voit régulièrement là, sur la médecine vétérinaire, c'est tellement nocif pour moi que je n'ai pas suivi ce dossier-là.
Parce qu'en résumé, quand on dégriffe les choses, c'est comme si on se coupait les phalanges.
On ampute l'extrémité. Là, la phalange qui porte l'ongle chez l'humain, c'est la phalange qui porte la griffe chez le chat. Donc, c'était une amputation de chaque doigt.
Mais ça avait levé, là, ça avait fait un tollé, puis visiblement, là, ça s'est estompé.
Ça s'est calmé, parce que comme n'importe quel changement, ça amène toujours des gens. Puis ceux qui parlent fort, c'est souvent ceux qui ne sont pas contents. Mais il y a plein de mes clients, moi, qui étaient hyper contents, là, dans le sens où ils aiment les animaux, ils comprennent que... Il fut un temps où on n'avait pas la même bienveillance envers eux. Puis on les dégriffait pourquoi? On ne les dégriffait pas pour leur bien, on les dégriffait pour notre bien. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que ce n'était pas sans conséquence pour l'animal. Et finalement, on a remis en question, mais c'était super long. Là. Ça fait longtemps là, qu'on remettait en question le dégriffage, nous, les vétérinaires. Là. Mais même à l'intérieur, en passant de la médecine vétérinaire, entre nous, là, dans notre communauté, il y a des gens qui ne voulaient pas là, que ça s'arrête. Il y a des gens qui voulaient qu'on continue de pouvoir dégriffer. Mais très souvent, c'était des gens de notre propre profession qui n'étaient pas bien informés. Parce qu'une fois que tu es bien informé là, de tout ce que ça comporte comme problème de dégriffer un chat, tu ne veux plus jamais en dégriffer.
Ouais, tu n'es plus sûr. Là.
Non, parce que, entre autres, puis c'est juste un exemple, un chat dégriffé a beaucoup plus de chances de mordre. Puis une morsure de chat, là, si vous faites mordre et que ça pénètre la peau, que ça passe à travers, vous allez à l'hôpital immédiatement. Il y a un protocole pour les morsures. Fait que, ça veut dire quoi? Vous allez repartir avec des antibiotiques. Il n'y a pas de niaisage à avoir avec une morsure de chat parce que c'est super dangereux. Okay. Ouais, ça peut se rendre loin. Fait que moi, je ne dis pas que je veux que les gens se fassent griffer, mais si on a à choisir entre une griffure et une morsure, on choisit la griffure.
Oh, c'est intéressant.
Oui.
Quand on pense vétérinaire, bon, on veut pas, on pense souvent à notre portefeuille. Hein, on va en jaser d'argent. Tu en as jasé avec des collègues vétérinaires aussi. Mm-hmm. Et puis, on en parlait ensemble hier. Qu'est-ce qui dérange les vétérinaires quand on parle d'argent? Parce que c'est sûr que pour le citoyen, c'est la première chose qui vient en tête. Il y a des gens qui n'osent pas faire soigner leur animal, malheureusement, parce qu'ils ont peur du prix au bout du compte.
Ben oui. Je tiens à dire que je comprends très bien les gens, comme tu dis, les citoyens, de trouver ça cher. Je ne veux pas nier ça. Au même titre que tantôt, vous étiez en train de parler du prix des coiffeuses.
Totalement.
Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup. Je comprends, là. Cette réalité-là, je la comprends. Maintenant, mettez-vous à la place d'un vétérinaire qui, à chaque fois qu'il y a une entrevue à la radio, un article dans le journal, une discussion avec un inconnu sur un coin de rue, peu importe, il n'y a pas une fois où on finira pas par nous demander de justifier. On ne nous dit pas ça de même, mais tu sais, on nous parle d'argent dans une approche plutôt, je dirais, accusatrice. Mmh. Fait qu'on se met dans une posture de défense. On doit défendre notre profession, défendre pourquoi ça coûte cher.
En passant, les dentistes vivent la même affaire. À chaque deux ans, il y a toujours des nouveautés dans les cabinets de dentistes avec des appareils qui viennent de sortir et tout ça. Puis les dentistes essaient de rester à la fine pointe de la technologie.
Et oui.
Ce qui fait en sorte qu'il faut qu'ils ajustent ses prix aussi avec l'équipement qu'il y a en place. Puis si, c'est sûr qu'un vétérinaire qui est dans un village versus un vétérinaire qui est en plein centre-ville avec les taxes municipales et tout ça, ils ont pas les mêmes frais.
Oui, oui. Ouais. Puis je vais ouvrir une petite parenthèse peut-être un petit peu plate, mais le taux de suicide chez les professionnels est le plus élevé chez les dentistes et les vétérinaires.
Ah oui?
Oui, oui. Fait que... peut-être aussi qu'on se fait dire des choses blessantes, tu sais, là. Peut-être qu'à un moment donné...
On va être francs, là, les gens, on se fait crosser, ouais, on entend de toutes sortes, là, oui. Ça fâche, là.
Puis je te dirais que...
En même temps, regarder le monde la bouche ouverte à longueur de journée, ça doit pas être...
Oh mon... Ils méritent leur argent.
Ils méritent leur argent, pas pire, oui.
Oui. Mais c'est ça. C'est sûr que le sujet du suicide chez les vétérinaires est un sujet très complexe. Ouais, oui. Ça prendrait toute une émission juste pour l'expliquer, mais il reste que je trouve que ça parle un peu, ben là. Oui. C'est le métier qu'à peu près tous les enfants vont avoir dit au moins une fois dans leur vie, je vais être vétérinaire plus tard, puis c'est le métier où il y a le plus haut taux de suicide. Mm. Fait que il y a comme quelque chose, là, il y a une dissonance en quelque part
là-dedans.
Quand
vous faites une prescription, est-ce qu'on peut prendre le médicament chez vous ou est-ce qu'on peut prendre le médicament en pharmacie?
Ça dépend du médicament, je te dirais.
Ah oui.
Il y a des médicaments, mettons, je prescris de la prednisolone 5 mg, elle se vend en pharmacie autant que je peux l'avoir dans ma pharmacie, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le goût, en sortant du vétérinaire, d'aussi devoir aller faire la file à la pharmacie, etc. Fait que nous, puis des fois, on a besoin pour des patients hospitalisés. Fait qu'on a une pharmacie intégrée à l'hôpital, mais certains médicaments, vous pouvez, quand vous allez chez votre vétérinaire, vous informer, tu sais, est-ce que ça se fait aussi pour les humains? Et si oui, est-ce que je peux avoir une prescription en externe pour aller à la pharmacie? Maintenant, il y a des médicaments, des fois, qui sont... pour les animaux spécifiquement, tu sais, puis que c'est pas facile à retrouver ou que la pharmacie pourrait peut-être avoir, mais que ça va leur prendre un délai, mais l'animal en a besoin tout de suite. Fait que nous, on a toute la médication que normalement on a besoin pour à peu près tous les problèmes de santé, mais c'est ça, on peut demander pour aller à la pharmacie, c'est une possibilité, puis nous, on peut pas empêcher les gens de demander la prescription, c'est leur droit.
Mais tu sais, Gravol, Tylenol, c'est des affaires que tu peux donner à ton chien, ton chat. Si on entend ça des fois, je vais lui donner des Gravol, il a mal au cœur en voiture.
Okay? Oui, bien ça, il faut faire attention au docteur Google, hein, parce que, bien, puis encore là, je suis la première à aller googler à peu près tout, comme tu sais, je vous ai googlé hier, puis...
Bon, mais au moins, t'as rien trouvé sur moi.
Non, rien de suspect, là, tu sais. J'avais pas eu assez de temps pour gratter, là.
Ouais, c'est ça.
Mais bref, c'est ça. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, pour éviter les frais vétérinaires qu'ils trouvent trop élevés, vont se détourner vers Google puis essayer de se débrouiller par les moyens du bord. Mais là, le problème que nous, on a, c'est que souvent, l'animal, s'il est significativement malade, là, assez pour que le client le voit qu'il est malade, bien, il va retarder le temps aussi, le temps qu'il fait ses essais maison, là, tu sais, avec les conseils de monsieur, madame, tout le monde, bien, il ne viendra pas à la clinique. Puis là, on sait qu'un rendez-vous, on n'a pas ça nécessairement dans la même journée. Fait que là, quand il va arriver en clinique, l'animal va être beaucoup plus malade et ça va probablement coûter encore plus cher le soigner rendu où il va être.
C'est pas la bonne idée, là.
Non, puis sans compter, là, tu as parlé de Tylenol, bien, ça, c'est un classique en médecine vétérinaire. Un client qui ne connaît pas ça puis qui s'en va donner du Tylenol à son chat malade, bien, le chat, il était malade de, on ne sait pas quoi, mettons, un diabète, puis en plus, il est intoxiqué au Tylenol. Fait que, waouh, ça va... ça va bien, là, tu sais.
J'ai plein de questions qui me viennent en tête, là. Par rapport à ça, quand est-ce que tu vas voir un vétérinaire, puis quand s'inquiéter pour un animal? Parce qu'il y a un texto qui est rentré, puis je voulais qu'on en parle de ça, la disponibilité aussi, l'accessibilité, parce que je pense que l'argent qui fait réagir les gens, mais il y a le fait aussi qu'il manque, j'ai l'impression, de plus en plus de vétérinaires. T'sais, en tout cas, nous, trouver une clinique, ça a été épouvantable. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un enjeu avec ton animal?
Oui, bon. Là, il y avait quand même beaucoup de questions en une. Je vais commencer par la disponibilité des vétérinaires.
Je t'ai bombardé, hein?
Non, mais c'est correct, c'est parce que je ne me souviens pas des autres. Fait que je vais commencer par ça, je me rappelle. Fait que la disponibilité. Bon, premièrement, c'est un peu moins pire là. OK? Ceci dit, je ne dis pas que c'est facile d'avoir des rendez-vous, mais on a comme eu une grosse période où là, c'était vraiment c'était l'apocalypse. Là, t'sais, là, les animaux étaient malades, on ne savait juste plus où les envoyer. On ne pouvait plus personne les recevoir. C'est compliqué. Mais en fait, ça ne vient pas tant de l'augmentation du nombre d'animaux, quoique oui, tu sais, il y a certains changements à ce niveau-là, mais ce n'est pas ça qui impacte le plus. C'est beaucoup plus le manque de ressources. Autant les vétérinaires que le personnel de soutien, là, les gens qu'on appelle les techniciens en santé animale, les animaliers, animalières, tout le personnel des cliniques, on est beaucoup à bout de souffle. Tu sais, là. Puis ça, là, il faut savoir, c'était avant la pandémie. La pandémie, là, elle n'a rien amélioré pour nous. Là. S'il y a de quoi, elle a juste empiré. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont remis en question leur choix de carrière, qui ont décidé de continuer d'être vétérinaire, mais de faire autre chose. Il y a des gens qui ont carrément lâché la pratique. Il y a de tout. Mais il n'y a pas eu plus de vétérinaires qui ont gradué. Puis tantôt, on parlait d'une réalité, tu sais, que quand moi j'ai gradué en 92, très peu de gens se destinaient à aller vers des spécialités. Donc, ces gens-là, ils rentraient massivement. En tout cas, on rentrait dans le marché du travail pour être des généralistes. Mais là, aujourd'hui, dans une cohorte de 70, c'est à peu près ça, 75 peut-être, vétérinaires qui graduent au Québec, bien, il y en a là-dedans qui vont aller travailler au gouvernement, d'autres dans les grands animaux, d'autres, tu sais, dans plein de choses. Et certains vont vouloir se spécialiser, vont partir aux États-Unis, vont pas nécessairement revenir au Québec après. Tu sais, ça fait qu'il y a une petite mini poignée de vétérinaires qu'on soupoude à travers le Québec. Tu sais, là, c'est pas beaucoup, là, tu sais. Tu sais, quand tu dis quelques dizaines de vétérinaires de plus chaque année, mais là, on a commencé à essayer de voir, à avoir des... Bon, il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur du Québec. Des gens de la France, on en avait quand même déjà beaucoup. Des gens du Mexique maintenant. Fait que, tu sais, ça va devenir plus... une plus grande variété d'origine, je peux dire. Mais c'est pas la solution parfaite non plus, là. Tu sais, il faudrait qu'il y ait plus de ressources pour qu'on puisse souffler enfin un peu. Et là, l'accessibilité, bien, c'est parce qu'à un moment donné, le vétérinaire, il a déjà pas le temps de dîner, des fois pas le temps de souper. Il dépasse souvent de plusieurs heures chacun de ses corps de travail. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il vive.
Il va falloir que tu reviennes, Natacha, parce qu'on a encore un milliard de questions.
Ah, Seigneur, il y a tellement d'auditeurs qui posent des questions.
On va terminer avec ça, Natacha Barrette.
Ouais,
tu as décidé de te spécialiser, toi, en tant que vétérinaire. Tu ne fais plus de clinique, tu te déplaces chez les gens maintenant.
Oui, en fait, c'est pas une spécialité reconnue. Je le dis parce qu'il y a un aspect légal là, qui se rapporte au fait de se nommer spécialiste. Donc, ça n'existe pas, cette spécialisation-là. Mais on va quand même l'utiliser juste pour qu'on se comprenne. Moi, j'ai décidé j'appelle ça ma mission, en fait. Ma mission maintenant, aujourd'hui, c'est d'offrir à la population de Québec et des alentours la possibilité d'avoir un euthanasie à la maison pour leur chat ou leur chien. C'est sûr que je couvre un grand territoire. C'est sûr que je suis toute seule. Je ne peux pas nécessairement me téléporter d'un endroit à l'autre. Je fais mon gros possible. J'essaie de garder mon équilibre aussi mental dans tout ça. Et je le fais parce que je considère que pour le bien des animaux, je ne dis pas qu'en clinique, les gens qui font l'euthanasie ne le font pas bien. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il y ait de l'euthanasie disponible dans toutes sortes de modèles différents, mais moi, j'offre aux gens la possibilité que j'aille à domicile euthanasier leur animal pour pas qu'ils soient stressés. C'est beaucoup ça. Tu sais, un chat dans un transporteur, dans une auto pour aller chez le vet, c'est jamais très winner, là. Puis il y a bien des chiens aussi, où il y a des chiens qui sont plus capables de se déplacer aussi, des grands chiens, mettons un Terre-Neuve qui est plus capable de se lever.
Mais je trouve ça intéressant, puisque l'animal, ça a toujours été sa résidence, donc il ne se fait pas changer de place, il est chez lui, il est en compagnie des gens qu'il aime. Il n'y a pas grand monde autour de lui qui ne connaît pas. Je trouve ça intéressant comme, comme approche. Donc toi, tu arrives, tu procèdes, qu'est-ce qui arrive avec l'animal par la suite?
Bien, en fait, il y a trois possibilités. Rarement, il y a des gens qui vont vouloir conserver la dépouille et eux-mêmes aller la porter au crématorium. Ou il y a un cimetière sur la rive sud. Certains clients vont, font affaire avec le cimetière. Ou l'enterrent dans une terre. Ils ont des terres agricoles parfois. Il faut faire attention. Cependant, si vous voulez garder une dépouille, il faut s'informer avant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a le droit légalement d'enterrer un animal. Puis aussi, il faut le faire d'une façon particulière. Là,
okay, je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'enterrer mon animal de compagnie dans mon terrain. Ah, ouais.
Non. Ceci dit, y a-tu des moyens de contourner ça légalement? Je ne sais pas. On peut-tu demander l'autorisation? Je ne sais pas. C'est pas ça, ce bout-là, ça ne m'appartient pas. Mais il y a des gens, donc, qui gardent la dépouille pour toutes sortes de raisons.
Je ne savais pas qu'il y avait un cimetière non plus à Lévis pour les animaux.
Mais écoute, je pense que tous les lots ont été vendus. Mais moi, j'ai des gens qui ont des lots et à chaque fois qu'il y a un nouvel animal qui décède, il s'en va sur ce lot-là. Après ça, ben, sinon, moi, je repars avec la dépouille dans mon véhicule. Elle est placée dans une housse mortuaire qui est étanche, qui est respectueuse. Puis je l'amène dans un hôpital vétérinaire pour l'entreposer et le crématorium passe chercher pour soit une crémation individuelle, donc les gens qui veulent ravoir les cendres de leur animal avec ou sans urne. Et sinon, il y a une crémation, mais elle est commune à ce moment-là. Donc, commun dans le sens qu'ils sont plusieurs là, à se faire incinérer en même temps. Donc, c'est comme ça là, que...
Moi, j'ai un membre de la famille qui travaille pour une entreprise où ça fait partie un peu du travail des chauffeurs, des fois, d'aller chercher les dépôts dans les vétérinaires. Puis c'est vraiment, effectivement, ça, là, une crémation commune pour les gens qui ne veulent pas garder nécessairement l'animal.
Mais je tiens à dire une chose, parce que la question m'est souvent posée. On me dit, mais tu sais, si je choisis commune, est-ce qu'ils ont le même respect de la dépouille, tout ça? Non, non, c'est pareil. C'est juste que rendu au crématorium, il y a une distinction qui va se faire entre les dépouilles, mais c'est pas une notion de... c'est pas un manque de respect que de choisir pour commun. C'est que des fois, les gens, ils veulent pas ravoir les cendres. Ils veulent pas... ce genre de souvenir-là ne leur fait pas de bien, puis c'est bien correct. On veut pas ravoir les cendres.
Natacha Barrette, on fait comment pour te rejoindre?
Ah, ben on peut aller sur ma page Facebook pour suivre mes publications, et sinon, je suis rejoignable en remplissant un formulaire sur le site web www.monvetalamaison.ca.
Même chose pour ce qui est de Facebook, c'est Mon Vet à la maison.
Oui.
Ça a été un plaisir de te rencontrer, puis on cédulera un autre rendez-vous
dans les prochaines semaines. On n'a pas le choix, parce que là, il y a plein de questions sur les assurances qu'on n'a pas abordées, les élevages. Fait qu'on va avoir de la jasette à faire.
11h, 1 minute, on revient, merci. Gravel dans le rain chaud. C'est une belle rencontre avec notre vétérinaire, puis on s'est entendu sur le fait qu'on va lui reparler dans les prochaines semaines. Tellement de questions des auditeurs.
Bien, c'est ça, c'est que ça a l'air de vous intéresser. Fait que dans ce temps-là, ça vaut la peine de faire des parties 2. J'ai noté la majorité de vos questions. En passant, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas au 88-971-1021. Dans 2-3 semaines, on va se reparler assurément.
11h06 aujourd'hui sur Québec. C'est autour de 9 degrés, puis on a atteint le maximum. Espérons que ça chauffe encore plus, ça ferait du bien, mais regarde, aujourd'hui c'est plein soleil, on est gâtés. Ce soir, cette nuit, c'est des nuages avec un minimum de moins 3 degrés. Demain, mercredi, ce sera nuageux tout au long de la journée, maximum de 8 degrés. Jeudi, 60 % de probabilité d'averse, donc pas encore de neige pour toi, Audrey, maximum de 7 pour jeudi. Et vendredi, ce serait de la pluie. Ce serait venteux avec un maximum de plus 5.
C'est tout ce qui manque, la neige, pour rendre ça un peu... ça manque de bonheur, là. Fin novembre, de même, pas de première neige, là, j'ai pas encore écouter une tonne de Noël, c'est malheureux.
Mon prochain invité va t'en amener du bonheur. Il est toujours de bonne humeur, mais il est toujours très occupé. On vous parle d'un sujet particulier. On vous parle de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui te fait peur, toi, l'intelligence artificielle?
Ah, beaucoup. Puis chaque fois qu'on a parlé avec Steve Waterhouse, c'est quelque chose que j'ai exprimé haut et fort. J'ai la chienne de l'intelligence artificielle.
Moi, j'utilise régulièrement ChatGPT dans ma vie. Quand j'ai des questions à poser par rapport à divers sujets, des fois, je dis, peux-tu me faire un résumé pour les nuls de, je sais pas, moi, de la théorie des cordes ou du boson de Higgs? Puis là,
Il parle même québécois, ton chat GPT.
Là, il me parle en français. Je dis, maudit français, parle-moi en québécois. Puis là, avec son accent québécois, il me fait un résumé du boson de Higgs.
C'est capoté.
Je travaille régulièrement avec ChatGPT. Mais oui, ça peut faire peur pour les gens, exemple, qui sont en informatique, parce qu'eux autres, ils savent comment ça fonctionne, la programmation et tout ça. À un moment donné, l'intelligence artificielle va être capable de se programmer elle-même. Elle n'aura plus besoin de l'être humain.
Mais là, c'est ça l'affaire. Là.
Et là, il y a des gens qui disent, il faudrait peut-être banaliser ça.
Faut mettre des limites.
J'ai pas banalisé ça. Baliser ça, c'est le mot que je cherchais. Puis on en discute avec Steve Waterhouse, qui est tout au bout du fil. Salut Steve, merci d'être là, soit dit en passant. Là.
Salut à vous autres, merci de l'invitation.
Steve Waterhouse, tu es spécialiste en sécurité informatique. Toi, l'intelligence artificielle, c'est-tu quelque chose qui te fait peur maintenant? Parce qu'au départ, je pense que tout comme tout le monde, là, tu trouvais ça franchement intéressant. Mais là, on commence à vouloir la baliser. Et je me dis, si on balise ça au Canada, parce que c'est une demande de Philippe-François Champagne, si on balise ça au Canada, les Russes, ils vont-tu la baliser aussi? La Corée du Nord, va-tu baliser ça? La Chine, va-tu baliser ça?
Non, c'est comment je te dirais, donc, c'est pour donner bonne conscience, là. Je vais être un petit peu peut-être méchant dans l'approche, mais le Canada, c'est pas le premier là, qui a mettre ça de l'avant. Là. L'année passée, les États-Unis, l'Angleterre ont signé, avec d'autres nations aussi à travers le monde, des accords internationaux pour être en mesure de tout le monde en commun développer puis de se doter des gardes-barrières dans l'utilisation et l'application de l'intelligence artificielle dans toutes les fins et les façons de travailler au quotidien partout dans notre univers. Parce que pourquoi je l'amène comme ça, tu sais, je te le globalise puis je vais te ramener ça d'un peu plus concret. Cet outil-là, quand même, a des très grandes capacités, puis on le voit de plus en plus envers nous comme citoyens, comment est-ce que ça peut nous servir agréablement, mais aussi comment ça peut nous nuire de façon vraiment là, terrible, un peu comme Audrey rapportait tantôt. Fait que donc, récemment, les Américains parlent aux élections qu'ils ont vécues, ben, il y en a eu de l'application négative de l'intelligence artificielle et il y a eu aussi de l'analyse faite par des intelligences artificielles quant aux résultats, quant à toutes les variables et données de votation pour cette élection-là pour en arriver avec des analyses, des résultats et à ce moment-là tirer des conclusions. Mais quand que les Américains et les Britanniques ont lancé leur institution justement dans la sécurité de l'IA, c'est justement pour être en mesure d'avoir les recherches qui soient faites de façon approfondie par toutes les universités et les intellectuels qui sont rassemblés derrière cette initiative. Et là, le Canada arrive en arrière du peloton pour être en mesure, lui aussi, de faire sa recherche et de parrainer sa recherche en matière de cybersécurité et envers l'IA, les intelligences artificielles, pardon. Et après coup, ben, juste vous donner une comparaison facile, l'Angleterre a dépensé 100 millions de livres sterling pour ce projet-là de sécurité de l'IA. Alors qu'ici au Canada, ben, ça représente quoi? À peu près 175 millions canadiens. Puis nous autres, on en a mis 50 pour 5 ans. Fait que c'est un petit peu les genres de narratifs avec lesquels, wow, attends un peu, eux autres, ils en dépensent beaucoup plus, quasiment double. Nous autres, qu'est-ce qu'on en fait ici? C'est là que je crois qu'on a un petit apport gêné par rapport au reste de l'échiquier mondial. Et jusqu'à présent, ben, peut-être Yannick que tu vas me poser cette question-là, mais moi, j'en vois pas présentement l'application dans un avenir très rapproché que nous pourront en voir les bénéfices.
Mais comment on va instaurer une certaine sécurité de l'intelligence artificielle, s'assurer qu'elle respecte nos intentions, nos lois?
Bien, premièrement, il faut comprendre les modèles, les langages avec lesquels et les données auxquelles ils ont accès, elles soient vérifiées. L'important, Audrey, c'est l'intégrité de ces données-là. Fait que donc, si je suis une personne mal intentionnée puis je veux contaminer le schéma de pensée d'une intelligence artificielle ou de son schéma de décision, ouais. Bien, une approche négative, c'est de contaminer justement sa source d'information et après coup, voire même peut-être faire dérailler l'algorithme et qui va amener la conclusion ou la décision vers où ce que je veux que ça s'en aille. Donc, Yannick, tu disais tantôt, les autres pays visés qui sont contre notre façon de vivre, eux autres, ils ont-tu intérêt d'aller s'immiscer dans des réseaux de recherche et de contaminer ces intelligences artificielles-là? La réponse, c'est oui. Fait que là, c'est tout ça l'enjeu qu'il y a à ce moment-là, les gardes-barrières à définir. Donc, comment est-ce qu'on vérifie cette intégrité? Qui le fait? Qui la certifie? Et après coup, comment est-ce qu'on la répand sur le marché? Parce qu'ultimement, le commerçant, il va être intéressé de peut-être s'en servir pour faire sa gestion d'inventaire, sa correspondance et des institutions démocratiques vérifier justement l'intégrité des résultats électoraux. Fait que ça en est une approche qui serait positive. Mais si ces balises sont pas présentes pour nous rassurer qui le fait, comment, etc., ben c'est là que ça va être encore dans n'importe quoi comme c'est présentement.
Parce que là, moi, où ça me fait peur, là, pour moi, les dangers, parce que là, on l'utilise de façon, puis là, je sais pas trop de quoi je parle, mais à mon sens, un peu récréative, là, tu sais, moi, Pian, oui. On l'utilise pour nous aider dans nos chroniques, nos informations, dans notre structure. Mais tu sais, le moment où tu l'utilises, par exemple, pour les prêts, je sais pas, moi, décider si j'ai le droit, moi, d'avoir un prêt dans la vie à la banque ou pas, puis que tout est généré par l'intelligence artificielle puis qu'il y a moins d'humains derrière ça, j'ai comme l'impression que ça devient problématique pour la sécurité, de un, mais de deux, pour les décisions aussi. Tu sais, je sens que c'est comme pas à point, pas en tout. Il n'y a pas de nuance, en fait, avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui m'énerve.
Oui, j'aime ton exemple, Audrey, parce que justement, actuellement, l'exemple, la cote de crédit là, qui date de la fin des années 80, bien, qui est derrière et qui la gère? Mm. Je veux dire, ça n'est un travail d'Astérix, là, des 12 travaux impossibles à réaliser, d'aller chercher comment est-ce que vous faites votre analyse de risque, comme moi, consommateur. Puis je l'ai déjà essayé, cette approche-là, et c'est impossible d'avoir une réponse de ces TransUnion ou Equifax de ce monde, parce qu'ils se gardent, eux autres, cette propriété intellectuelle, disant, on a toutes sortes de variables avec lesquelles on produit cette analyse de risque-là et on donne le résultat qui est la cote de crédit. Mais en même temps, ça serait intéressant qu'ils soient transparents dans l'approche pour être en mesure, justement, de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ils donnent la recette, comment améliorer ton dossier de crédit. Là, tu sais, tu t'endettes pas, tu prends pas de carte de crédit, si t'en as, réduit ça à un minimum, etc. Mais aujourd'hui, dans l'ère qu'on dépense beaucoup, il y a plusieurs autres variables qui viennent en compte. Fait que juste pour cet aspect-là, ça serait intéressant de le voir. Voici un modèle avec lequel la carte de crédit va être calculée. Ça se fait, ça. Pareil, comme je te dis, je vais protéger la confidentialité d'un document. J'utilise tel algorithme. Bien ça, l'algorithme est connu, comment est-ce qu'il opère, qu'est-ce qui va changer, mais c'est comment l'algorithme va s'appliquer avec la clé. Ça, c'est la partie qui va être sensible, qui va être confidentielle. Mais l'algorithme comme tel, la mécanique, ça devrait être public. Et de cette façon-là, bien, ça va être rassurant de comprendre comment ça s'actualise en arrière. Là.
L'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle qui a été lancé la semaine dernière par François-Philippe Champagne, est-ce qu'on va discuter d'éthique? Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine éthique qui entoure ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle au Canada? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Puis en même temps, si nous, on accepte d'être très éthique, puis les Américains embarquent là-dedans, puis le Mexique embarque là-dedans, c'est pas dit que les Russes vont embarquer dans cette éthique-là. C'est pas dit que la Corée du Nord va embarquer dans cette éthique-là non plus.
Absolument pas. Ils n'ont pas de temps à perdre, eux autres, parce que c'est des pays où ils sont, à ce moment-là, encouragés. Ils encouragent même les citoyens à commettre des crimes n'importe où sur la planète, puis les citoyens n'en seront pas condamnés, ne seront pas tenus judiciairement parlant. Donc, on parle encore une fois de la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Puis là, dans l'évaluation des cybermenaces 2025-2026, l'Inde a été rajoutée dans cette gang de pas fins-là. Fait que, on a dans tous ces éléments-là, ce que j'ai bien aimé, la déclaration du ministre Champagne, il disait, si on veut passer de la peur à l'opportunité, il faut bâtir la confiance. Mais comment est-ce qu'on peut avoir confiance envers, justement, des mécanismes qu'on ne connaît pas? La façon que ça travaille et qui va les opérer surtout. Puis encore, ce que je ramène comme message, c'est que vu qu'on est en arrière de ce peloton-là de développement puis de garde-barrière qu'on doit établir à travers le monde, puis là, je veux dire, il y en a une douzaine de nations là, qui ont été signataires de ce traité-là de sécuriser l'IA. Ils ont commencé ça en Corée en mai dernier. La prochaine conventum, le prochain sommet a lieu en France l'année prochaine, en février 2025. Et donc, ils vont se rassembler encore, ce beau monde-là, pour dire bien, comment est-ce qu'on oriente nos affaires, etc. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a des gros argents qui sont apportés, mais ici, présentement, l'initiative canadienne, il n'y a pas de jalon avec lequel on peut s'attendre qu'il y ait une application concrète de qu'est-ce qu'ils vont travailler, alors que présentement, j'ai dans les mains un rapport du NIST américain, qui est une agence qui développe des normes et qui travaille dans ce sens-là. Et conjointement avec les Britanniques, bien, ils ont développé justement un rapport de 51 pages sur comment, présentement, ils voient l'application sécurisée de l'IA. Ce que je ne crois pas qu'on va voir dans un avenir approché ici avec le Canada, parce que c'est vraiment axé sur de la recherche présentement. Et ça ne me rassure pas, Yannick, de savoir qu'ils vont juste faire de la recherche, mais qu'ils n'ont pas de fin à dire « on va appliquer ça comme ça dans notre société ».
La bonne nouvelle, c'est que tu as de la job jusqu'à la fin de tes jours. Tu es spécialiste en informatique, fait que j'imagine que tu vas avoir un peu de job avec l'intelligence artificielle, puis pas à peu près. L'intelligence artificielle peut servir en sécurité informatique aussi, là.
Oui, définitivement, puis de plusieurs façons. Puis une des manières qu'on doit y penser, je veux dire, l'analyse de la menace va faire en sorte que c'est là la puissance de l'intelligence artificielle va être intéressante. Donc, comprendre combien est-ce qu'il y a d'acteurs de menace, intelligence artificielle ou pas, qui sont à l'attaque vers moi comme organisation ou comme dans l'ensemble, exemple, de ma clientèle, si je veux la protéger adéquatement. Mais avant que ça soit intégré pour faire toutes ces analyses-là, comprendre s'il y a une communication qui arrive par courriel, texto, peu importe le moyen, que c'est une communication réelle ou bien c'est une communication artificielle, les deepfakes, c'est là que, mec, que ça soit tout mis en place comme moyen de détection. Waouh! Là, on va avoir du fun à dire, OK, là, on peut à ce moment-là assumer qu'on détecte correctement la menace de qu'est-ce qu'on ne détecte pas. Mais c'est là, jusqu'à présent, que ce n'est pas totalement intégré. Fait que là, on est Black Friday bientôt. On va entendre parler de toutes sortes de deals qui vont apparaître, que toute la sécurité informatique passe par un cossin qui va être appelé IA quelque chose. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que les fabricants en ont mis un petit peu d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas full-blown, comme on dit en anglais. Ce n'est pas donc à pleine option ouverte que ça va faire le travail qu'on s'attend. Fait que dans un avenir approché, ça va aider, mais la posture n'est pas mature présentement. C'est en évolution, c'est en développement.
Des fois, j'ai peur de te poser des questions parce que je ne connais pas les réponses, mais je vais te la poser. Est-ce que l'intelligence artificielle s'améliore par elle-même ou c'est des ingénieurs qui travaillent constamment? Est-ce que cette intelligence-là artificielle s'améliore?
Dans certains laboratoires, ça a été vu qu'il y a une capacité d'auto-apprentissage, oui. Alors que certaines, il y a une étude que j'ai lue plus tôt cette année qui me démontrait que l'intelligence artificielle avait atteint un certain niveau de conscience que ça commençait déjà à planifier à faire l'élimination de l'humain. Tu sais, ça a été dans cet extrême-là.
Seigneur Dieu! Steve, t'es pas rassurant,
non, mais...
là!
Non, mais je veux dire, c'est, dans un lab, tu y montes, tu sais, tu l'amènes jusqu'à sa pleine capacité. Tu dis, bon, mais c'est quoi, là, tu sais, vive ultimement, toi, là, intelligence artificielle, comment est-ce que tu prends ça? Puis, ben, tasse l'humain, tu sais, c'est une variable que je veux pas traîner le reste de mes jours. Tu sais, c'est de même que l'intelligence artificielle va répondre.
Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont peur de faire des enfants. Ben... Pour vrai.
Bon. En même temps, c'est là que, tu sais, c'est une question d'éducation en même temps. Si l'appareil, l'algorithme, tout ça, n'est pas démontré les bienfaits ou les capacités d'eux, c'est certain, il peut conclure logiquement que, ben là, ça devient à ce moment-là, tu sais, comme on dit, avoir des enfants, c'est une dépense supplémentaire, c'est une dépense de trop. Puis il y en a qui vont conclure comme ça juste par un aspect financier. Mais dans l'évolution humaine, quand tu dis, ben j'ai des enfants, ça va me faire grandir, ça va amener plus loin la progéniture à parfaire mes idées, les amener dans un autre avenir. C'est là qu'il faut qu'il y ait cette approche-là différente. Puis dans l'aspect artificiel, ça se développe tout autant que l'aspect humain.
Toujours intéressant de discuter avec vous, M. Waterhouse. Merci de vous être rendu disponible, monsieur.
Toujours un plaisir, M. Marceau.
L'excellent Steve Waterhouse, qui est spécialiste en sécurité informatique. Ça te fait-tu peur, pour vrai?
Moi, ça m'angoisse.
Ça t'angoisse?
Ah, mais c'est pas... tu sais, je trouve ça... Tu vois, c'est drôle parce que hier, j'ai commencé à gosser avec Gemini sur mon Google Pixel, là, qui est l'intelligence artificielle de Google. Puis là, j'ai posé des questions, mais moi, je suis vraiment pas familière avec ça. Tu sais, toi, tu dis que tu l'utilises beaucoup.
Oui.
Moi, j'y pose des questions vraiment niaiseuses, là. Combien de minutes faire cuire mon macaroni, là? Tu comprends? Je l'utilise pas comme... Mais c'est vrai, j'ai pas encore... Je suis très... Hey, Yann, je prépare encore mes dossiers au papier.
Oui. Ben c'est correct.
Tu sais, j'ai vraiment de la misère avec la... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai peur que ça me rende le cerveau mou. Puis c'est pas juste ça, là. Ça, je dis ça parce que je projette, mais je sais pas si c'est une question de confiance ou une question de changement. Je suis pas à l'aise, je sais pas trop comment ça marche. Puis quand tu mets ça exponentiel, puis tu penses à la façon dont ça pourrait être utilisé au gouvernement, pour notre argent, pour nos... Ça me fout la chienne bien raide.
Ouais, puis les spécialistes en informatique se penchent beaucoup sur cette question-là de l'intelligence artificielle. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est du côté des Américains. Fait qu'on devrait tout le temps gagner. C'est ce qu'ils nous apprennent des films.
Ouais, c'est ça dans les films.
Exact, dans les films. Hey, je t'assure de passer une belle fin de journée. On t'écoute dans le retour tantôt à 14h avec Denis et Véro. Puis Pascal CV vient se joindre à nous dans les prochaines minutes. Pour l'instant, c'est Bob Sonnette. Mettre du tape sur ma palette sur les ondes de boulevard. À tantôt.
Salut!